is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.
Bonjour chères auditrices et auditeurs de Livres et Amis pour cette émission du mercredi 30 août 2023. C'est presque la rentrée. En fait, la rentrée, c'est la semaine prochaine. Mais déjà, les températures baissent et la circulation en ville augmente. Alors avec la rentrée, même s'il y a encore des manifestations culturelles et festives organisées par la ville dans le cadre de l'été marseillais, nos cinémas préférés rouvrent. Et font ainsi la transition entre films d'été et films d'automne. Vous allez retrouver par exemple à La Baleine encore Les Herbes Sèches de Nuri Bedje Ceylan, mais aussi à partir d'aujourd'hui, Alam de Firas Khoury, qui nous emmène vivre avec les jeunes Palestiniens d'Israël. Et nous, ben nous, à Livres et Amis, nous rentrons avec un livre un peu sérieux qui s'appelle Toilettes publiques. Toilettes publiques avec aujourd'hui au micro Dominique et Françoise, à la technique Angèle et à la technique là-bas pour l'antenne Sceau qui vient de nous donner un petit truc pour, vous verrez, enfin vous entendrez, notre pause musicale. Donc, Toilettes publiques, c'est un livre sérieux, disais-je. Oui, d'abord parce que son auteur, Julien Damon, est un homme sérieux, professeur à l'Institut des sciences politiques et d'autres grandes institutions, sociologue spécialisé dans les études urbaines et dans les études sur les équipements publics des villes. Alors, bien sûr, les études sur les toilettes publiques, c'est très sérieux et c'est sous-titré « Essai sur les commodités urbaines ». C'est en fait un sujet de santé publique qui se pose dans le monde entier. Et Julien Damon l'aborde en traitant les aspects historiques, économiques, sociologiques et géographiques de cet important sujet. On va le suivre dans son étude au fil des pages. Et on va lire d'abord son introduction qui nous présente justement et pratiquement un état du monde à travers les toilettes publiques. De l'Inde à la Lune, en passant par les Vespasiennes parisiennes ou celles de la Rome antique, cet ouvrage invite au voyage. Il analyse les réalités crues et les solutions que se donne l'humanité pour traiter de questions essentielles. L'objet du livre « Les toilettes » ouvre sur des problématiques à la fois fondamentales et opérationnelles. Comment améliorer le quotidien urbain avec des systèmes adaptés à tout un chacun, mais aussi à l'environnement ? Comment concilier besoins basiques et préoccupations écologiques, dignité des personnes et contraintes d'action publique ? Alors au départ, des chiffres. Les toilettes, c'est 10 minutes en moyenne par jour pour 4 à 5 passages quotidiens. C'est une statistique communément avancée sur le temps passé aux toilettes. Elle concerne les pays occidentaux dotés d'équipements. Elle pâtit évidemment de n'être qu'une estimation moyenne qui gomme les différences entre les sexes et les âges de la vie. Elle donne tout de même une indication qui autorise certains calculs simples. Cette estimation aboutit à 0,7% de notre existence, soit autour de 6 mois sur une vie passée aux toilettes pour une personne qui vit aujourd'hui en France avec l'espérance de vie qu'on connaît. Donc, évoquer le sujet des toilettes lors d'un dîner en ville, au bistrot ou au travail, ça suscite plutôt soit des rires, soit de la morgue, soit, pour certains, de la révulsion. Ces réalités prosaïquement humaines se nomment péniblement, du moins en Occident et peut-être dans certains pays d'Orient, où tant de tabous persistent. Puisque nous nous exécrons, c'est incroyable ça, nous exécrons ce que nous excrétons. Ça y est, j'y suis arrivée. Il se révèle difficile de parler de toilette, Freud aidant ou non. Prononcer les mots, c'est difficile, oui. Il convient donc ici de choisir les termes au-delà du sujet avec attention, sans contorsion lexicale excessive. Pléthore de noms et de surnoms désigne les toilettes, avec leur cortège de synonymes ou d'euphémismes issus de l'argot ou de la langue châtiée. Du petit coin des grands-mères aux chiottes des jeunes, en passant par les WC, les wawa ou les feuillets, nous avons l'embarras du choix. Le mieux est de ne pas se limiter à un terme et surtout de pas trop se protéger de voiles pudiques ou moralisateurs pour occulter une réalité naturelle bien réaliste. Il faut savoir parler sans détour des déjections. Alors, sujet sérieux, oui. Et surtout, lorsqu'il s'agit d'analyser l'univers des toilettes, ça demande une langue rigoureuse qui sache mettre de côté les deux écueils de la gaudriole et de l'offuscation, le vocabulaire trop cru ou le vocabulaire trop fleuri. Les experts ont su trouver des substantifs et des verbes précis, parfois judicieusement imagés. Il est vrai que le sujet intéresse. Chacun y va de son anecdote, de son expérience, de ses observations. Tout le monde connaît le plaisir d'une envie pressante soulagée. Tout le monde connaît les désagréments d'un besoin difficile à satisfaire. Le sujet des toilettes n'est pas indélicat. Il engendre un défi central pour la dignité humaine, pour le développement humain, quand une partie substantielle des habitants de la planète vit encore entourée d'excréments, avec les virus, les bactéries et les parasites qui les accompagnent. Il n'y a pas de parasites, là, justement. J'ai un petit fond sonore, moi, non ? Bon. Les problèmes affectent marginalement une civilisation paysanne, mais ils touchent frontalement une civilisation humaine. Historiquement, les paysans ont toujours eu leur propre sensibilité, leurs propres contraintes sanitaires et environnementales. Cependant, le sujet des toilettes est né de la densité et de la promiscuité caractéristiques de la ville. À présent, il se pose avec une particulière gravité dans les grandes villes des pays pauvres et il est loin d'être résolu dans les villes des pays riches. Dans les pays en développement, il mobilise des personnalités aussi prestigieuses que le premier ministre indien Narendra Modi ou le secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping et aussi l'un des hommes les plus riches du monde, l'entrepreneur philanthrope Bill Gates. Dans les pays développés, les hommes politiques ignorent le sujet, les femmes politiques un peu moins. En Europe et en Amérique du Nord, on s'intéresse à la qualité de vie en général, à la qualité de vie dans les villes en particulier, mais la question très urbaine des toilettes ne passionne guère les élites. Dans des métropoles qui ne cessent de s'étendre, où les temps de mobilité augmentent et où les inégalités sont flagrantes, l'exigence pour chacun d'assurer ses besoins basiques dans des conditions minimales d'intimité demeure insuffisamment prise en considération. Les habitations des pays riches, jadis affligées par des maladies telles que la typhoïde ou le choléra, sont désormais bien pourvues. Tous les immeubles, toutes les maisons possèdent des toilettes. Ces installations utilisent de gigantesques quantités d'eau, le plus souvent de l'eau potable, ce qui confine au gaspillage. En revanche, le manque de toilettes est patent dans l'espace public. Et cette carence accentue les inégalités entre les sexes et entre les âges, entre les nantis et les démunis, entre les mobiles et les sédentaires. Les habitations des pays pauvres, notamment les bidonvilles, sont souvent dépourvues de toilettes. Les besoins se soulagent dans l'espace public à ciel ouvert. Tout cela rend les eaux impropres et entraîne des maladies graves. À travers le monde, le nombre de personnes ne disposant pas de toilettes, publiques ou privées, s'élève à des centaines de millions. Alors en fait, de quoi parle-t-on ? Au sens strict, les toilettes publiques désignent les édicules singuliers établis dans l'espace public afin d'y soulager certains de nos premiers besoins humains. Au sens large, elles rassemblent tous les WC, sanisettes ou autres latrines accessibles au public lors hors des domiciles. L'ensemble constitue l'offre en communauté urbaine présente sur la voirie, mais aussi dans les lieux ouverts au public, tels que les administrations, les restaurants, les cafés, les gares, les écoles, les musées, les bibliothèques, les universités. Ces endroits et services particuliers à la ville se trouvent au cœur de problématiques majeures, dont celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Touristes, personnes handicapées, sans-abri, personnes âgées, chauffeurs de taxi, livreurs, représentants de commerce, routiers, etc. sont également concernés, quoique différemment selon les pays, les normes, les habitudes et donc l'offre existante. Les commodités urbaines méritent bien un effort d'attention. Ces endroits, plus ou moins familiers, ont beau être publics, ils ne sont pas tous gratuits. D'ailleurs, le mot « public » et « toilette » ne vont pas forcément ensemble, car utiliser les toilettes publiques engage des comportements particulièrement privés, des rituels intimes culturellement codifiés. Il en va des plus stricts secrets personnels comme de normes collectives de civilité et de propreté ou d'hygiène. Loin d'être annexe ou marginale, la question des toilettes publiques touche au bien-être physiologique élémentaire et quotidien de tout quidam évoluant dans l'environnement urbain. Inhabituelle, son étude sérieuse se révèle une entrée précieuse pour aborder des sujets tels que la gestion urbaine et l'aménagement des espaces urbanisés. Elle constitue aussi un excellent moyen pour pénétrer celui de l'urbanisation mondiale avec ses disparités et ses perspectives différentes également. Elle croise enfin un ensemble de thématiques cruciales pour le droit de l'urbanisme, le droit social, la sociologie des modes de vie, l'écologie et donc la grandeur de l'humanité. Observer les sociétés par la lunette de leurs toilettes ouvre des éclairages singuliers sur les villes, les cultures, les inégalités, les civilisations, les mœurs. Se préoccuper des toilettes publiques revient à s'inquiéter du monde. On vous le disait, l'état des toilettes publiques, c'est un peu l'état du monde, une image de l'état du monde. Et d'abord, pour des références solides et pour notre culture personnelle, voyons avec Françoise un aperçu historique.
Avant de se pencher sur les toilettes, il convient d'abord d'appeler un peu d'histoire. Comment se débrouillait-on autrefois, chez soi et dans l'espace public? Les villes contemporaines se targuent d'améliorer la qualité de vie des citadins tout en protégeant l'environnement. Situés dans l'ombre de nos existences urbaines, les réseaux de gestion de l'eau et des déchets nous sont inconnus. Qui est informé des réalités et des enjeux des équipements aériens et souterrains qui concourent à une existence urbaine salubre? En la matière, le passé renseigne. Les salles de musée consacrées à la préhistoire ne regorgent pas de reliques de latrine. Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs ne requérait pas de telles installations. Il faut attendre l'avènement des cités antiques pour repérer la naissance des toilettes. L'histoire des villes pourrait se résumer à celle de leurs toilettes et vice-versa. L'agglomération commande l'invention de voies et de moyens pour soustraire les déchets organiques à la vue, au contact, à l'odorat et même à une ouïe délicate. Les premiers regroupements humains, relativement denses, voient ainsi naître toilettes privées et toilettes publiques sous leurs aspects les plus rudimentaires, puis de plus en plus élaborés. Sur le plan domestique, les vases de nuit, utilisables aussi de jour, se repèrent dès l'Antiquité. Égyptiens, Grecs et Romains disposaient de pots de chambre. Les archéologues trouvent des vestiges et des empreintes de commodité collective dans les cités les plus anciennes à travers le monde. Elles apparaissent en Mésopotamie, 3500 ans environ avant Jésus-Christ, puis en Inde, en Turquie, en Chine, en Crète et en Grèce, à Rome. Les techniques de collecte et d'évacuation des déjections s'affinent. On en apprend principalement par les fouilles, les ruines et les graffitis sur les toilettes dans l'espace public et dans les habitations du lointain passé. L'empereur Vespasien, au 1er siècle de notre ère, personnifie le sujet. Il n'inventa rien sur le registre strictement sanitaire dans une cité déjà équipée en aqueducs, thermes et bains publics. Innovateur sur le plan fiscal, il introduisit un impôt sur l'urine collectée par les tanneurs. L'invention de cette taxe fit passer à la postérité, et avec, selon la légende, la paternité du dicton classique « l'argent n'a pas d'odeur ». Concrètement, des amphores d'argile étaient placées dans les rues. Les hommes pouvaient s'y soulager. Les travailleurs des tanneries, redevables de l'impôt sur les urines ainsi récupérées, les utilisaient pour dégraisser les peaux. En sillonnant les ruines de Pompéi ou d'Ostie, on figure les latrines comme des lieux de sociabilité où des hommes bavardaient, vaquaient accroupis à des activités très naturelles. Rares dans les habitations situées dans des pièces distinctes, souvent près de la cuisine et de la cour, les toilettes symbolisaient la richesse et la puissance de leurs propriétaires. Des esclaves spécialisés effectuaient les vidanges dont les produits pouvaient être utiles aux agriculteurs. Seuls les plus fortunés pouvaient se permettre de telles commodités. Elles relevaient autant d'un désir de sécurité que d'hygiène. Les toilettes communes, à la romaine, n'ont pas connu un élan fulgurant. Elles ont même disparu en tant qu'équipement proprement urbain ouvert à tous. Le système, toutefois, a subsisté à travers certaines règles communautaires. Dans les casernes, les hôpitaux, les prisons et les monastères, la solution romaine à travers les siècles. Avant d'être séparées en cabinets, les latrines sont restées longtemps collégiales. Les fonctions intimes étaient alors publiques. En trois mots actuels, Rome fut le précurseur des égouts, des toilettes et du recyclage. Les contributions antiques en matière d'ouvrages hydrauliques et d'installations domestiques ne sont pas seulement notables, elles sont fondamentales.
Oui, on le savait, en matière d'urbanisme, les Romains ont tout inventé. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, la chute de l'Empire romain, c'est un recul des pratiques de la civilisation urbaine. Alors, encore un petit peu d'histoire. Après les aspects donc, chez les Romains, continuons à un certain panorama historique des latrines. L'Europe médiévale ne prolonge pas la dynamique romaine des innovations. Du Moyen Âge au Grand Siècle, en passant par la Renaissance, les évolutions sont en fait très lentes. Ces siècles connaissent tout de même quelques innovations. Apparaissent les premières chaises percées pour les habitants les plus aisés ou les plus proches des sièges royaux. Châteaux et forteresses contiennent des latrines matérialisées par des trous donnant directement dans les fossés et sur les douves en côte bas. Leur nom d'époque, des garde-robes, qui n'ont pas grand-chose à voir avec nos penderies contemporaines. Ces alvéoles d'un autre âge agrémentent de nos jours les visites des châteaux forts en famille. Étape obligée de la découverte, elles suscitent la curiosité amusée des enfants. Et même souvent aussi la curiosité des archéologues ou des personnes qui fouillent dans les restes trouvés justement des latrines. Parce que dans les latrines, dans le passé, on jetait aussi les latrines, c'était des poubelles. Donc par exemple, dans les latrines du château de Vincennes, je me souviens bien qu'on avait trouvé des tas de poteries, d'ustensiles de cuisine, etc. etc. Bref. Au XVIIe siècle, les fastes de la cour contrastent avec la crasse des cloaques urbains à ciel ouvert, et je dirais même la crasse de certaines peaux. On dit que les courtisans se lavaient une fois par an pour certains d'entre eux. La chaise percée connaît alors un essor particulier. Élaborée et utilisée comme du mobilier d'apparat, elle permet de se reposer, de lire, d'écrire et de recevoir. Louis XIII et Louis XIV sont passés à la postérité, entre autres, pour leurs usages de ces meubles, bureaux et trônes à la fois, décrits dans les livres d'histoire. Leur dénomination varie, on les appelle aussi sièges de commodité. La pratique commune reste le tout à la rue. Qu'elles proviennent de simples pots ou de récipients de chaises percées, ordures et eaux usées se déversent par les fenêtres dans une rigole centrale à la rue. Et oui, on a tous vu ça dans les villes anciennes. Les rigoles ou garder l'eau. Ces jets sont en fait les ancêtres de ce qui existe quelquefois à l'heure actuelle, les flying toilets. Vous savez, dans les bidonvilles des métropoles du Sud, là où les toilettes sont rares, Il y a quelquefois des sacs plastiques remplis d'urine et d'excréments qui voltigent dans les rues. Alors, ils s'écrasent à terre, bien sûr, mais parfois, sur les congrès ou les cortèges d'autorités venus visiter les quartiers pour les rénover. Enfin, revenons à l'histoire. Le constat plus général de l'aspect boueux et cloacal de l'insalubrité urbaine est un classique historiographique. Il en ressort un portrait possiblement exagéré, car élaboré principalement à partir de ce que des élites urbaines alarmées rapportaient, sans rendre compte de toute l'activité quotidienne des métiers de la propreté. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, nous disent les quelques historiens qui ont traité le dossier, le côtoiement de l'ordure et des déchets humains aurait modérément rebuté les habitants des villes. Ils y étaient de toute façon habitués et contraints. Et puis les seuils de tolérance, notamment olfactifs, se sont progressivement abaissés. La densification de l'habitat rendant cette promiscuité très pénible. À l'époque, en fait, sous l'Ancien Régime comme sous les nouveaux régimes républicains, c'est la police qui fait la chasse à la malpropreté, puisque la propreté, justement, fait partie des attributions de la police. Et la police s'implique plus avant dans le nettoyage des rues, encombrées non seulement par les chevaux, les animaux, les chariots divers, mais aussi par les excréments humains et par des déchets alimentaires et ensuite industriels. À Paris, c'est la police qui gère le matériel et les personnels chargés de ramasser les immondices. Elle oblige les particuliers à balayer et à nettoyer la fange devant chez eux. Elle dresse des contraventions quand elle repère des tas de boue ou d'autres choses qui embarrassent la voie publique et qui gênent la circulation. Donc voilà, nous sommes à une ère de transition et bientôt on va, avec l'industrialisation, avec la révolution industrielle, aborder une nouvelle période au XIXe siècle.
Prosaïquement, au XIXe siècle, dans un contexte d'urbanisation, d'industrialisation et d'essor de l'hygiénisme, des municipalités et des entrepreneurs ont entrepris l'implantation d'installations spécifiques. Se sont alors développés des mobiliers urbains dévolus à certains premiers besoins humains, et surtout les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement.
Et en fait, justement, puisqu'on est au siècle de la Révolution industrielle, ce seront Londres et Paris qui viendront en tête.
En 100 ans, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, les usages et les dispositifs d'évacuation des eaux passent du tout à la rue, de plus en plus proscrit, au tout à l'égout. Historiquement, l'égout a été inventé pour refouler hors de la ville les eaux fluviales et les eaux de ruissellement. Sa seconde fonction, consistant à charrier les matières excrémentielles, solides et liquides, est venue plus tard. Puisque jusqu'au début du XIXe siècle, il est habituel de se soulager directement dehors ou de se débarrasser de ses déchets sur la voie publique. Des agglomérations de plus en plus denses deviennent de véritables toilettes à ciel ouvert. Les habitants consomment une eau qui traverse la ville et qui est polluée par les déjections. Typhoïde, choléra, hépatite tuent alors massivement. Londres pionnière. Quand les épidémies meurtrières, le choléra, grand indicateur de la salubrité des villes, deviennent récurrentes, une révision profonde du cycle de l'eau s'impose pour mieux gérer les infections et les dangers. Depuis le XVIe siècle, Londres n'est pas uniquement un foyer pour les maladies, mais aussi pour les idées. Les inventeurs et les compagnies privées y multiplient les innovations. Avec la municipalité inaugurant une histoire chahutée des compromis entre intérêts publics et privés, des entreprises y lancent de grands travaux de construction, de canaux d'adduction et de distribution d'eau. Redécouvrant dans une certaine mesure les techniques employées par les cités romaines antiques, Londres conçoit les bases des réseaux d'eau modernes. La médecine découvre au cours des années 1850 John Snow, pionnier de l'épidémiologie et de la santé publique, prouve que ce n'est pas l'inhalation d'un air vicié qui est en cause, théorie des miasmes, dans la propagation du choléra, mais l'ingestion d'une eau contaminée. Les ingénieurs proposent Joseph Bazalgette, ingénieur des services municipaux londoniens, suggère une refonte en profondeur du système des égouts de la ville à la suite d'un épisode passé à la postérité sous le nom de The Great Stink, la grande puanteur. Durant l'été étouffant de 1858, des effluves malodorants remontent de la Tamise, indisposent et inquiètent tout le monde, y compris les parlementaires siégeant à Westminster. Ces derniers demandent alors la création de conduites et de réseaux afin que toutes les déjections soient évacuées hors de la ville. Loin des yeux, loin des nez, loin des bouches, il faut faire disparaître ce qui dégoûte dans les égouts, il faut écarter les dangers. Le Parlement adopte un projet colossal de couverture et d'extension des égouts londoniens. Ouvrant d'immenses chantiers, Bazalgette éventre littéralement la ville en faisant creuser des centaines de kilomètres de canalisation et en implantant des pompes aspirantes pour les eaux usées qui sont rejetées en aval. Le tout à l'égout s'étend, c'est-à-dire le raccordement des habitations à une même canalisation pour recueillir et transporter les eaux usées de toute nature.
Oui. Donc, on est bien à Londres, on est aussi à Paris. Le grand chantier du siècle à Paris, pour ce qui est des égouts, est enclenché dans le cadre de la métamorphose urbaine voulue par Napoléon III. Avec l'amplification de l'assainissement, il y a l'intervention des différents préfets, que vous connaissez sûrement, Haussmann, le préfet de la Seine, mais aussi l'ingénieur des ponts et chaussées Eugène Belgrand, qui a sa rue, bien sûr, à Paris, et puis deux autres bien connus de leur nom de famille, Rambuteau, qui a sa rue également, et Poubelle. Alors, effectivement, Poubelle, tout le monde le connaît. Tous ces experts sont en fait des experts en sociologie urbaine et ils vont devenir également experts en travaux et en hydrologie pour faire passer l'adduction et l'assainissement comme des systèmes vraiment nécessaires à la modernisation de la ville. Des travaux grandioses, donc à Paris comme à Londres, sont entrepris pour moderniser et agrandir ce qui devient un formidable entrelacs de galeries, des plus petites aux plus grandes, qui sont les grands collecteurs. Et donc, alors que le réseau d'égouts n'était que de 96 km en 1848, il passe à 600 après la guerre de 1870 et à 1200 à la veille de la Première Guerre mondiale, pour une population parisienne qui était, elle, passée à 3 millions d'habitants. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par exemple, alors que la population parisienne a reflué à 2 700 000 habitants, eh bien, il y a un réseau d'égouts qui a encore doublé ou triplé par rapport au début du XXe siècle. Le projet, c'était donc, et ça a été réalisé, de refouler les eaux sales qui étaient vecteurs de circulation de germes loin de la capitale. C'est-à-dire qu'on pompait et ensuite on emmenait dans des réseaux spécifiques, même pas dans la rivière évidemment, puisque c'est ce qui avait fait hurler les Londoniens, mais au-delà, vers des prés d'épandage qui seront bien connus en région parisienne, par exemple, pour ceux qui donnent, attendez, les meilleurs produits, ben oui, les meilleurs produits de primeur, de fraîcheur, de légumes, bien sûr. Mais voilà, il faut utiliser les déjections à ce à quoi elles sont utiles. Alors, les toilettes et les systèmes d'assainissement des villes continuent à se répandre, continuent à devenir absolument nécessaires partout, puisque partout en Europe, elles sont en effet analysées comme des systèmes de salubrité publique. Avec l'urbanisation généralisée au XIXe siècle, des millions d'individus ont afflué vers les villes, Ils ont été attirés, bien sûr, par le travail lié à la révolution industrielle. Il a bien fallu les héberger et il faut aussi faire que cette vie ne soit pas trop contraignante sur le plan de la salubrité publique. Il y a eu une véritable misère humaine dans les villes du XIXe siècle. Elle a été un cauchemar décrit par Dickens, par Hugo, par Zola. Mais la salubrité a tout de même été, dès le départ, on pourrait dire, un souci des dirigeants. Et même si on en a moins parlé, eh bien, ce souci de la salubrité publique, il a poussé à l'organisation des égouts qu'on vient de voir et en effet du rejet des eaux usées dans des périphéries bien plus loin de l'habitat des grandes villes. Donc progrès technique et transformation de Val-la-Ville se sont combinés dans des contextes politiques et économiques variés. Mais l'aménagement de l'espace public, c'est quelque chose qui s'est véritablement fondé au XIXe siècle. Les toilettes dans l'espace public, c'est devenu une véritable question sociale. Il y a eu, dans les différents systèmes politiques, une espèce de valse hésitation entre nécessité hygiénique, et morale bourgeoise, parce qu'en fait, on s'est demandé si l'histoire des édicules urbains devait être cachée ou que il fallait au contraire en rendre l'utilisation publique. Alors voilà, on arrive à notre pause musicale. Je m'étais dit qu'à défaut d'une chanson sur les toilettes, je vous ferais écouter Brassens dans les bancs publics. Les bancs publics, c'est dans l'histoire de la chanson quelque chose de très, très intéressant. Mais finalement, je vous en parlais tout à l'heure, notre technicien d'antenne, nous a soufflé qu'il existait une chanson lyonnaise d'origine qui concerne vraiment les toilettes. Et on va donc écouter Michel Arnaud dans « La Dame Pipi ».
Quand je regarde les pendules, quand j'ai peur, quand je recule, quand je suis plus très bien, quand je me tiens plus très droite, quand je me sens plus étroite, quand je suis plus sûre de rien, quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a anguille sous roche. Je vais voir la dame pipi de la rue des Quatre Perdrix. Chante le blues comme une négresse. Elle dit qu'en bas c'est pas l'enfer, mais qu'elle désespère que les gens viennent la visiter par nécessité et qu'ils repartent sans rien dire, ni mot, ni sourire, comme si elle était transparente. Quand on fait 80 kilos, c'est pas rigolo. Alors elle chante pour tuer le temps sur son type pliant et swing à grands coups de pantoufle. Sous terre elle étouffe et puis qu'elle broie du noir au rythme des chasses d'eau qui coulent au fond de ses urinoirs. Au rythme des chasses d'eau qui coulent au fond de ses urinoirs. Quand je perds mon chemin, quand je sais pas si je fais bien, quand je me culpabilise, quand je me mets à compter, quand je me mets à ranger, quand je me cherche des églises, quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a anguille sous roche. Je m'en vais voir la dame pipi de la rue des Quatre Perdrix. Chante le blues comme une négresse. Elle voudrait peindre une grande clairière dans sa pissotière, avec des arbres et des chevaux, un ciel plein d'oiseaux. Il y aurait aussi des petits enfants qui courent dans les champs, ces enfants qu'elle n'a pas voulu, de peur qu'ils aient le regard tout gris de ses canaris. On verrait les gens stupéfaits descendre l'escalier, rien que pour la beauté de la scène. Ce petit coin arraché aux graffitis obscènes. Fini les vieilles latrines, ici c'est la chapelle Sixtine. Fini les vieilles latrines, ici c'est la chapelle Sixtine. Et donc voilà dame pipi de la rue des Quatre Perdrix, chante plus comme une négresse. Croisez donc son regard en lui glissant la pièce. Dedans y a un monde englouti qui n'a jamais fleuri. Puis remonter en sifflotant du blues de la dame pipi. Ce Michel-Ange assassiné au musée des doubles WC.
Alors, merci pour le blues de la dame pipi. Et c'est vrai que c'est essentiellement le propos de Julien Damon que de dire qu'on est passé des vieilles latrines à quelquefois la chapelle Sixtine des toilettes publiques. En fait, la question qu'il pose sur comment faire dans l'espace public, eh bien, c'est vrai que c'est une réponse que Paris, comme d'autres villes, a cherché, donc, une réponse. Non, à laquelle Paris a cherché une réponse. Excusez-moi, je ne sais plus construire mes phrases. Paris constitue quelquefois un véritable laboratoire. Du préfet de la Seine, Claude Philibert de Rambuteau, dont on parlait tout à l'heure, à l'entrepreneur contemporain Jean-Claude Decaux, donc des Vespasiennes aux Sanisettes, il y a eu tout un mobilier urbain dédié qui a pris place en ville. Et ce mobilier urbain a quelquefois été emblématique de Paris. Il a évolué comme dans le restant de la France et dans le restant des villes du monde. On a vu les édicules publics se modifier dans leur apparence et aussi, bien sûr et surtout, dans la façon dont ils ont pu rencontrer les normes de la décence et les normes de la salubrité. Il y a eu d'abord une grande augmentation du nombre des toilettes publiques et puis pour des raisons peut-être justement de décence ou de tabou, une réduction à nouveau de ces toilettes. Alors c'est vrai qu'on parlait de bancs publics, il y a eu quelquefois de véritables combats dans certaines villes pour ou contre les bancs publics, pour ou contre les espaces où par exemple les sans-domicile pouvaient s'étendre. Et les toilettes aussi ont fait l'objet de bien des discussions sociologiques parce qu'il en fallait, mais il ne fallait pas qu'elles soient des lieux de rencontre, des lieux qui pouvaient être contraires à la morale, etc. etc. Donc Julien Damon fait une étude très approfondie à la fois de l'aspect esthétique et de l'aspect sociologique de la prolifération, puis de la restriction du nombre des toilettes publiques. Et on va revenir à une étude statistique à partir de la page 57 de l'ouvrage. On va voir donc si ce problème a été résolu. Dans les statistiques européennes, la part de la population française ne possédant pas de toilettes intérieures avec chaise d'eau à l'usage exclusif du ménage s'affiche comme inférieure à 1% depuis le milieu des années 2000. Donc, toilettes privées, bilan positif. Toilettes publiques, qu'en est-il ? Quand chacun accède chez soi à des commodités fondamentales, les toilettes publiques deviennent de moins en moins nécessaires, peut-être, mais de plus en plus, ressenties comme nécessaires. Depuis l'après-guerre, la conjonction de la montée en qualité sanitaire des logements et la réduction de l'offre de toilettes dans l'espace public a été une vraie contradiction. Et en fait, l'offre de toilettes publiques qui avait commencé à décliner entre les deux guerres, pour des raisons morales et sanitaires, a été ressentie comme quelque chose de très gênant dans les villes de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors que les processus de transformation de la ville se caractérise par la croissance des mobilités, obligeant à la fréquence accrue de fréquentation d'espaces inconnus, les aménagements urbains devaient être de plus en plus répandus, alors qu'ils avaient été négligés entre les deux guerres. Les citadins étant mobiles, et même de plus en plus mobiles, les WC privés ne pouvaient suffire, et l'offre de toilettes publiques devait donc remonter, parce que les habitants en ont besoin. Cela se vérifie non seulement pour les flâneurs et les badauds, mais aussi pour les actifs, dont les activités professionnelles sont dissociées de plus en plus de lieux privés ou de lieux de travail fixes. Alors, que se passe-t-il en effet? Eh bien, tout simplement, c'est ce que dit Julien Damon, la révolution de Co. Deco, ben oui, cette entreprise qui s'appuie notamment sur une enquête menée par l'IFOP dans les grandes villes et qui nous dit bien qu'il y a une trop grande faiblesse de l'offre des toilettes publiques. Que s'est-il passé donc? Peu à peu et à partir de ces différents sondages de l'IFOP ou d'autres, on a cherché à multiplier les commodités urbaines. Il fallait bien gérer. Et la sanisette, c'est finalement le plus compliqué des mobiliers urbains à gérer, d'où la spécialisation de Co. Dans une sanisette, il faut gérer tous les fluides, le raccordement à l'eau, au tout à l'égout, à l'électricité, et même au téléphone, parce que dans une sanisette, comme dans un ascenseur, il faut pouvoir signaler les pannes. Il faut mettre en place un nettoyage systématique après usage et, si possible, un nettoyage automatique systématique après usage. C'est donc l'avènement de ce qu'on a appelé, sur le plan international, les « automatic public toilets », c'est-à-dire les toilettes publiques à nettoyage automatique. Elles essaiment en France et à l'étranger et c'est donc le marché spécialisé de Deco au départ et d'autres grandes entreprises ensuite. Les sanisettes apportent des progrès incontestables et elles permettent tout d'abord aux femmes d'accéder à l'aisance urbaine à égalité avec les hommes. Les perfectionnements en matière de nettoyage et de désinfection systématique sont également remarquables. Les cabines individuelles limitent aussi la promiscuité. Cependant, comme toutes les précédentes innovations historiques en matière de toilettes publiques, elles ne sont pas immédiatement adoptées. Une partie du public, désorientée par les manœuvres à réaliser, craint par exemple de s'y trouver enfermée. Alors ça, c'est vrai, je me souviens très bien qu'il n'y a pas très longtemps, là, en allant à une manifestation de l'été marseillais avec des copines, on a eu une utilisation très surveillée des toilettes publiques parce qu'on était un peu comme les gamines à l'école. On voulait vraiment ne pas rester seule tout près de cette... dans cet édifice, on voulait les copines tout près. Alors, au titre des salles sanisettes, Paris a pu innover et à la suite de Paris, toutes les grandes villes. Et s'est posé finalement un dilemme très important, c'est le dilemme de la gratuité. Motivé par la volonté de ne laisser personne dehors, le service des sanisettes parisiennes est devenu gratuit en 2006. Oui, en 2006, c'est ça. Et en fait, de nombreuses études réalisées précisément par la société de Co ont montré que oui, il fallait rendre gratuit l'ensemble des sanisettes. Le passage à la gratuité, c'est très important. À Paris, il a eu comme première conséquence une forte augmentation des usages. Et à la suite de cela, au tournant du millénaire, de très nombreuses autres municipalités ont en effet répandu l'usage des toilettes publiques gratuites. Ça a été le cas à Nantes, à Strasbourg, à Lyon, etc. Et finalement, le fait d'utiliser des toilettes gratuites, ben non, ce n'est pas un coût, c'est même au contraire une économie sociale et, enfin, disons, de l'ensemble du tissu social. Parce que la question de la santé publique, eh bien oui, c'est une vraie question sociale, économique et politique. La gratuité des commodités, la vision qu'en ont les différentes municipalités et les moyens qu'elles veulent bien y consacrer constituent l'une des pierres d'achoppement des politiques de la ville. Et en définitive, pour la ville, la question n'est pas de savoir combien elle perd dans un service gratuit, mais combien elle souhaite vraiment dépenser pour une offre de bonne tenue qui ne décourage pas les utilisateurs par la tarification. Les sanisettes ne sont en fait qu'une petite partie du grand sujet des commodités urbaines. Si Françoise veut nous lire cette petite incise sur les commodités urbaines, je reprendrai la parole ensuite.
À Paris, se recense une toilette publique pour 3000 habitants, contre une pour 48 000 à Marseille, mais une pour 2400 à Reims. En moyenne, dans les 17 plus grandes villes françaises, on compte une toilette pour 5300 habitants. La hiérarchie n'est pas du tout la même si l'on calcule le ratio de toilettes par kilomètre carré. Marseille reste en dernière position, mais Paris, 8 toilettes par kilomètre carré, passe largement en première position, devant Lyon, 4, puis Grenoble, 3,6, et Rennes, 1,8. Les leçons que l'on peut tirer de cette diversité nationale amènent au thème des inégalités. Les toilettes composent, en l'espèce, un formidable observatoire.
Oui, c'est ça. En fait, l'inégalité, c'est l'inégalité des villes. On vient de le voir, et là encore, Marseille est mal placée. Mais l'inégalité, c'est aussi les inégalités de l'intimité. Et là, ça va concerner beaucoup plus les individus.
L'inégalité est à l'évidence élevée entre ceux qui disposent de toilettes chez eux et ceux qui, ne bénéficiant pas d'un chez-soi, n'en ont pas. Il est également prononcé entre d'autres catégories de la population, notamment entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les personnes âgées. Elle est enfin criante entre les villes du monde développé bien équipées dans les logements et celles du monde en développement, caractérisées par d'importants manques d'équipements privés et publics. L'état des communautés urbaines est révélateur d'inégalités multiples et même il les exacerbe. En réponse, les politiques locales en atténuent ou en amplifient les conséquences.
Ah oui, jusqu'à la page peut-être 84, il faut
c'est ça. Les pages. Dans les locaux des entreprises, le droit oblige. Le Code du travail organise clairement les obligations relatives aux installations sanitaires nécessaires à leur maintenance. Les employeurs, y lit-on, doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. Le Code du travail dispose aussi que, dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les toilettes se partitionnent, tandis que l'espace de travail est résolument mixte. Le code précise que les entreprises doivent disposer d'au moins un cabinet et d'un urinoir pour 20 hommes et de deux cabinets pour 20 femmes, l'effectif considéré pour ce décompte étant le nombre maximum de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Des spécifications concernent les cabinets d'aisance réservés aux femmes. Ils doivent comporter un récipient pour les protections périodiques. Encore bien des besoins. Chargée de faciliter la protection des travailleurs, la prévention et le dialogue social autour des questions de santé et de sécurité, l'inspection du travail assure l'encadrement et le contrôle de toutes ces obligations. Ces agents peuvent infliger des amendes relativement conséquentes en cas de manquement et de lacune d'équipement, jusqu'à 2000 euros par salarié concerné. Visite surprise, passage au crible des bâtiments, des baraques et des bases de vie de chantier, rappels à l'ordre, sanctions, la panoplie d'actions et d'investigations possibles ne décourage pourtant pas tous les entrepreneurs indélicats. En pratique, précisément, les WC au travail ouvrent des possibilités d'intimité. Dans les usines, sur les chantiers, dans des bureaux de plus en plus organisés en plateaux ouverts, ces cabinets servent parfois de refuge privé. Une étude réalisée en 2014 pour le groupe SCA, qui fabrique notamment du papier toilette, Hygiène Matters, témoigne d'usages parfois surprenants qui font les salariés français des toilettes de leur entreprise. Outre des activités propres à ces lieux, 21% des salariés s'y changent parfois, 15% y téléphonent et 12% y envoient des messages, à l'abri donc des oreilles et des yeux des collègues. 11% s'y accordent une pause pour lire, méditer ou passer du temps sur les réseaux sociaux. Quelques-uns s'y cachent pour pleurer. D'autres y passent en couple pour vivre une relation.
Donc voilà, c'est le grand univers, ou plutôt la vie du grand univers des toilettes publiques ou mises à la disposition du public. C'est cela dont on parlait tout à l'heure dans les entreprises et les administrations, institutions publiques, etc. etc. Il y a un lieu dont on parle souvent quand on est en famille et qu'on se met à parler de toilettes, ce sont les écoles. Si vous avez été parent, vous avez forcément eu des relations tendues avec les personnels, justement, des écoles de vos enfants à propos des toilettes. Vous savez, les toilettes des écoles ne sont jamais convenables. Il n'y a pas de papier, les portes ne ferment pas, on a peur d'y aller, les petits se retiennent pour ne pas y aller. Enfin bon, bref. Non assujettis au code du travail, les élèves étudient dans un univers moins précisément régi sur le plan sanitaire que le cadre professionnel de leurs parents. Alors, du primaire au lycée, le sujet des toilettes scolaires revient de manière récurrente, non seulement dans les familles, mais aussi dans les conseils de classe, dans la presse et même dans les questions parlementaires. Des études, des sondages, des thèses rapportent les problèmes rencontrés et le ressenti des enfants ou des adolescents, souvent sous-estimés par les adultes. Par peur de la saleté, dégoût des odeurs, constat de vétusté, réserve sur le manque d'intimité ou de sécurité, beaucoup d'élèves adoptent des stratégies d'évitement. Des proportions notables ne fréquentent pas les sanitaires pendant leurs horaires de classe. Et ces rétentions engendrent évidemment des maux, des nausées, des constipations, des infections, etc. etc. Le ministère de l'Éducation nationale diffuse des guides et des circulaires à destination des équipes administratives ou enseignantes, bien sûr, en charge des écoles. Et une série d'améliorations sont en permanence recommandées, mais finalement, bien peu sont suivies. Alors oui, le problème des toilettes à l'école, c'est la rentrée, on va bientôt en entendre parler. Et puis, il n'y a pas qu'à l'école. Les toilettes, ça révèle d'autres problèmes. Ça révèle, par exemple, on l'avait vu tout à l'heure, on en a parlé brièvement pour les lieux de travail, tous les problèmes de différence et d'inégalité basés sur le genre. Les hommes et les femmes ne sont pas également à l'aise dans les toilettes. L'humanité se sépare bien en deux quand il s'agit de ces lieux d'aisance ou au contraire de mal-être. Certains analystes dénoncent là une construction sociale historique fondée sur une sorte de pudibonderie bourgeoise qui aurait formaté une classification sexuelle de l'espace public. Les thermes romains et leurs latrines étaient séparés, oui, mais surtout les journées d'utilisation étaient séparées, un petit peu comme on le retrouve maintenant dans les hammams. Donc, la partition des deux sexes dans les, disons, usages publics des lieux publics ne date pas d'hier. Les bains, dotés parfois de toilettes collectives, étaient au contraire quelquefois dédoublés, pour que, justement, les hommes et les femmes ne se côtoient pas. D'où, éventuellement, l'alternance des horaires. Historiquement, l'espace public urbain a été pensé, vécu et contrôlé comme essentiellement masculin. Et sortir de la maison, occuper les rues des villes, a longtemps été une prérogative des hommes. Les femmes, donc, décence et sécurité oblige, restait au foyer, à la boutique ou à l'atelier. Si elle se déplaçait, elle devait savoir se retenir. Le cas échéant, les plus aisés demandaient un accès aux toilettes des magasins quand les hommes trouvaient sur leur chemin abondance de ruelles, tavernes ou édicules. On tourne les pages. C'est vrai que l'ensemble de l'utilisation du territoire urbain, dans cette utilisation, il n'y a pas de parité. Il n'y a pas de parité dans les toilettes. Analyse, proposition et mobilisation partent toujours d'un constat de différence en temps d'attente, par exemple, devant les WC publics. La question globale soulevée est éminemment féministe. Eh bien oui, pourquoi les femmes doivent-elles attendre plus longtemps pour utiliser des toilettes? On le voit partout. Cela relève de la santé, mais aussi de la dignité des femmes forcées d'attendre, au vu et au su de tous. L'attente est désagréable en tant que telle et elle renvoie à une condition différente sous le regard des hommes. Et même si quelquefois des rieuses en profitent pour mettre en place une sororité complice, eh bien ce n'est pas toujours le cas. La géographe canadienne Leslie Kern signale que les toilettes urbaines les plus accessibles et les plus confortables pour les femmes sont celles des grands magasins. Normal, écrit-elle, ces établissements ont été créés pour les dames. Situés près du rayon lingerie ou du rayon bricolage, les commodités des grands magasins dans les grandes villes sont souvent de qualité. Et donc, elles figurent quelquefois dans les guides touristiques avec un petit clin d'œil aux femmes. Bah oui, on connaît tous les toilettes de chez Harrods, bien sûr. Elles sont même redevenues payantes, les toilettes de Harrods, parce qu'elles étaient devenues effectivement une curiosité touristique. Alors, il n'empêche que cette question est une question sérieuse. La séparation entre hommes et femmes, puisqu'elle produit d'abord des inégalités, et l'insuffisance de l'offre, disons, finalement, cette séparation peut être défaite. Les toilettes devraient peut-être être déségréguées, pour utiliser le vocabulaire des experts. Et en fait, la voie la plus commune vers l'accomplissement d'un objectif de la généralisation des toilettes, ça consisterait à imposer la mixité. L'interrogation amène en tout cas à soupeser les arguments en présence. Le sujet se révèle épineux, parce qu'il s'entremêle là des considérations techniques, bien sûr, mais aussi des considérations militantes, des convictions religieuses, des aspirations à la reconnaissance des différences. Les toilettes publiques présentent l'intérêt et la difficulté d'être un lieu de séparation souhaitée ou de ségrégation critiquée. Aux exigences de séparation pour des raisons de sécurité répondent des revendications d'inclusion pour permettre à tout un chacun de s'y sentir bien. Si les commodités incommodent parfois, il convient de voir comment mieux les accommoder en rapport justement avec les problématiques à l'heure actuelle pressantes d'identité. La solution la plus pratique et la plus efficace réside, on l'a vu, dans la mixité. Mais la mixité, laquelle ? Laquelle ? Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des bancs publics. Eh bien, la mixité, on va la retrouver sur les bancs publics. Après que je vous ai quand même dit au revoir pour cette semaine, après que je vous ai annoncé, justement, pour la semaine prochaine, un retour littéraire à Marseille, et puis, rentrée politique, rentrée littéraire, rentrée de livres. Voilà, nous allons nous quitter aujourd'hui, mais bien faire notre entrée et retrouver Georges Brassens.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique
des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour.
A song that comes from Tanzania. Malaika.